Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonsoir. À la une de ce journal, terrorisme au Burkina, une trêve de 24 mois négociée par les militaires au pouvoir. La révélation est faite par le journal Aujourd'hui au Faso, une durée qui correspondrait à celle de la transition. En attendant, les affrontements continuent sur le terrain. 4 militaires, 9 VDP ont été tués dans une embuscade à Boulunga, dans le BAM, centre-nord. Au moins 34 assaillants ont été également abattus. Et le Burkina célèbre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président du Faso est allé soutenir les forces combattantes sur le terrain. Ce 5 août, Paul-Henri Damiba était à Fada avec les éléments du 34e régiment interarmé. Et puis Rosalie Tal est l'invitée de cette journée, jeune fonctionnaire et âgée de 18 ans à l'époque. Elle est témoin oculaire de la cérémonie de proclamation de l'indépendance. Aujourd'hui, du haut de ses 80 ans, la poétesse et enseignante à la retraite se souvient de cette date du 5 août 1960. Entretien à suivre à la suite de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Bienvenue à ce journal sur Radio Oméga. Terrorisme au Burkina, une trêve de 2 ans négociée avec les groupes armés. Le gouvernement de la transition aurait entamé des discussions avec les groupes armés terroristes pour une trêve de 24 mois, l'équivalent du mandat des militaires au pouvoir. C'est le journal Aujourd'hui au Faso qui le révèle dans sa parution de ce jour. Une révélation non encore confirmée, mais qui pourrait être la suite d'un processus de dialogue que revendique le gouvernement. Dans un communiqué du 28 juillet dernier, le ministre d'État en charge de la cohésion sociale, Yero Boli, invitait encore les concitoyens enrôlés dans les groupes armés à saisir l'opportunité de cette main tendue en vue de leur réinsertion sociale. Pour le moment, la situation demeure pour le moins difficile sur le terrain. 4 militaires et 9 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans une embuscade à Boulunga, dans la province du BAM, région du centre-nord. Il s'agit d'une unité du détachement militaire de Bourzanga qui coordonnait une action offensive avec un groupe de VDP, selon l'état-major, dans un communiqué qui indique également que 10 blessés ont été enregistrés. Surpris par la puissance de feu des éléments, les terroristes ont battu en retraite après qu'au moins 34 d'entre eux ont été neutralisés. Se félicite l'état-major général des armées dans son communiqué. Et c'est dans ce contexte que le Burkina célèbre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président du Faso, Paul-Henri Damiba, dit avoir une pensée particulière à ceux qui ont perdu la vie dans la lutte contre le terrorisme ainsi que pour ceux qui sont marqués à vie dans leur chair et dans leur être. À ceux qui ont dû quitter leur terre et à ceux qui œuvrent inlassablement pour leur venir en aide, le chef de l'État adresse ses encouragements également. Je formule le vœu que l'ensemble des Burkinabés puissent se retrouver autour de l'esprit qui a prévalu en 1960 pour faire de notre pays une nation libre, a écrit Paul-Henri Damiba. Un message que le président du Faso est allé porter de vive voix aux forces combattantes sur le terrain. Ce 5 août, le président du Faso, Paul-Henri Damiba, était à Fadangourma où il a rencontré les éléments du 34e régiment interarmé. Extrait de son message aux soldats dans ce journal.
Nous sommes passés vous dire bonne fête de l'indépendance dans un contexte sécuritaire assez particulier et vous rassurer que le matériel pour les personnels militaires, viendront incessamment. Donc j'invite tout le monde à resserrer les rangs. Je félicite les uns et les autres pour ce qui a été déjà fait ces derniers temps. Et il faudra redoubler de vigilance et puis suivre, rester focalisé et avoir le moral au top pour qu'on se donne la main pour pacifier assez rapidement votre zone de responsabilité. Des dynamiques sont en train de prendre au niveau de la population pour que toute la nation soit une dans cette guerre-là. Donc, bon courage à vous et bonne fête de l'indépendance.
62 ans d'indépendance et vous le savez, la proclamation du 5 août 1960 est l'aboutissement d'un processus historique et politique, l'œuvre des élites politiques à travers leurs partis, des élites qui ont contribué à défendre les intérêts des voltaïques dans les instances représentatives et à conscientiser les masses populaires. Parmi eux figurent Daniel Wezin Koulibaly, Maurice Yameogo, Gérard Kango Ouédraogo, Philippe Zenda Kabore, Nazi Boni et bien d'autres. Mais qui étaient-ils? On en sait plus ici avec Yaya Demandé.
Maurice Yameogo a été le premier président de la Haute-Volta et incarne l'État voltaïque au moment de l'indépendance. Membre de l'administration coloniale, Maurice Yameogo se fait dès 1946 une place dans le dense paysage politique grâce à ses qualités oratoires. Il intègre le gouvernement de coalition formé par Wezin Koulibaly en 1957 comme ministre de l'Agriculture sous la bannière du mouvement démocratique voltaïque. Maurice Yameogo devient le numéro 2 du gouvernement avec le portefeuille de l'intérieur qui lui permet, lorsqu'en septembre 1958, Wezin Koulibaly décède, d'assurer l'intérim de chef de gouvernement. Et puisqu'on parle de Daniel Wezin Koulibaly, l'homme politique est né en 1909 et était membre du Rassemblement démocratique africain. Élu député en 1946, il représente le territoire de la Côte d'Ivoire au Parlement français avant de devenir président du Conseil de gouvernement de la Haute-Volta en 1958, année de sa disparition. Philippe Zenda Kabore a aussi été un élément clé de l'indépendance de la Haute-Volta. Il est élu en novembre 1946 avec Félix Ofoué-Boigny et Wezin Koulibaly comme député de la colonie de Côte d'Ivoire au Parlement français. La mission de Philippe Zenda était précise, faire renaître une Haute-Volta autonome. Cet ancien militant du groupe d'études communistes pendant ses études à Dakar, que fut Zenda Kabore, meurt subitement à Abidjan le 25 mai 1947 à la fleur de l'âge en partance pour Paris. Gérard Kango Ouédraogo a été une véritable bibliothèque et témoin de l'histoire sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Il a été élu député du Palais Bourbon à Paris en 1956 sous la bannière du Parti progressiste voltaïque. Il est ministre des Finances de 1958 à 1959. Gérard Kango Ouédraogo est le président fondateur de plusieurs mouvements politiques. Nazi Boni a représenté la Haute-Volta à l'Assemblée nationale française avec Gérard Kango, Henri Guissou et Mamadou Ouédraogo en 1945. Il crée en 1959 le Parti national voltaïque et lança deux jours plus tard le Parti républicain de la liberté qui est dissous le 6 janvier 1960. Co-fondateur du Parti pour le regroupement africain créé en 1958, son engagement lui a valu un exil de près de 6 années. Nazi Boni rentre au pays le 18 juin 1966 et décède le 16 mai 1969 dans un accident de la route.
Et à cette époque, en 1960 donc, Herman Yameogo devait avoir entre 12 et 13 ans. Il s'agit de l'un des fils de Maurice Yameogo, premier président de Haute-Volta. Il nous relate ici quelques souvenirs.
Cette indépendance, nous l'avons vécue dans l'euphorie à cette époque-là. C'était l'euphorie générale. Il y a plein de chansons qui en témoignent. Bon, c'était la fête partout. On a vu qu'il y avait un mécontentement de la part des colons qui étaient là parce que visiblement ils perdaient quelque chose. À l'époque, j'étais enfant de troupe. J'étais à l'école militaire qui est actuellement le Pritané. J'étais à l'époque l'école militaire africaine. Il y avait des sergents, il y avait des colons qui étaient mécontents et qui nous disaient « Vous ne savez même pas fabriquer une épingle et tout et vous voulez votre indépendance ?» Dans le même temps, nous avions peur d'une réaction de ces gens-là, notamment les militaires qui étaient basés à Bobo, puisque le départ des troupes françaises avait été demandé. Nous avions peur que pendant que nous étions en festivité, ces militaires la rappliquent sur Ouagadougou. Donc c'était dans l'inquiétude et la joie, parce qu'on sentait en tout cas que le pays serait gouverné par ses propres fils.
À Diébougou, certains se souviennent aussi des événements marquants avant et après les indépendances. Parmi elles figure Joël Benoît Sommé. Il est formateur des jeunes agriculteurs à la retraite. Témoignage au micro de Boniface Zagri.
Moi, je suis né en 1944. Je suis allé à l'école en 1951. C'était au moment de la colonisation française. Parce que la France s'appelait la Gaule avant de devenir France. Donc nous étions des Gaulois. C'était le français qui était la langue moderne. Personne n'osait parler sa langue à l'école. Il y avait même des symboles, des têtes d'âne, des têtes de bœuf, tout ça là. Si vous parliez la langue du Lao ou bien le Dagara, on vous mettait ça au cou. Fallait payer l'impôt coûte que coûte, sans savoir pourquoi il faut payer. Il y avait les travaux forcés. Les gens n'aimaient pas ça, c'est vrai. Il fallait aller travailler, même le coton. Le coton se cultivait, mais on déposait tout chez le chef de village. Et le chef de village envoie ça au chef de canton Et maintenant, c'est vendu ou c'est pas vendu, on ne sait pas. Dans tout ce qui cultivait le coton, ne gagnait rien. Là-dedans, il y a beaucoup de choses que nos parents faisaient sans comprendre. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se faisait avant, mais c'était sous forme de force. Les gens vivaient bien malgré tout ce qui était là, puisque les règles étaient respectées. Quand l'embarras sonnait au Burkina, moi j'étais au Togo et j'écoutais la radio. J'étais très content qu'on ait dit que nous les Noirs, nous sommes indépendants. Pour moi, on allait remplacer les Blancs réellement. Nos commandants allaient être des Noirs, tout le monde allait être des Noirs. Les Blancs, même s'ils étaient là, ils allaient être des étrangers qui sont là pour nous voir faire quoi. Et j'espérais beaucoup. On n'a pas l'esprit des gens d'aujourd'hui. Moi, par exemple, on m'a affecté à Surigan. On est parti me montrer un terrain vide. Voilà ton école. J'ai reçu mes élèves sous un arbre. Le lendemain, ils étaient 42. C'est avec les élèves que nous avons fait les briques pour construire notre salle de classe, pour construire ma maison.
Le 5 août, date anniversaire donc de l'accession à l'indépendance, mais toutes les cérémonies commémoratives ainsi que le discours à la nation du chef de l'État sont renvoyées au 11 décembre, date de la proclamation de la République au sein de la communauté française. Pourquoi cette commémoration a-t-elle été renvoyée au 11 décembre ? Élément de réponse avec Valérie Guéret.
Tantôt célébrée en août, tantôt le 11 décembre, la fête nationale du Burkina aura connu des dates différentes au gré de l'histoire. Une année après l'indépendance du pays, soit en 1961, la date du 11 décembre marque la célébration de la fête nationale. Cette date est choisie pour éviter que la célébration ne soit gâchée par la saison pluvieuse qui bat son plein en août. Et avec une population pratiquant majoritairement l'agriculture, le choix était plus qu'évident. De plus, en août, les élèves, principales composantes du défilé civil, sont déjà en vacances. Les choses vont se poursuivre ainsi jusqu'à l'avènement de la Révolution. La fête nationale est dès lors célébrée chaque 4 août, date de reprise du pouvoir par Thomas Sankara et ses compagnons. Les autres dates furent qualifiées de célébrations réactionnaires. Après l'assassinat de Thomas Sankara, virage à 180 degrés. Le 11 décembre est à nouveau retenu pour célébrer la fête du pays. Mais la question des dates va créer des bisbilles au sein de la classe politique. On parle alors du 4, du 5 août et bien d'autres dates pour la célébration de la fête de l'indépendance. Puis, en dernier ressort, les députés vont retenir la date du 11 décembre comme celle de la commémoration. Et une parade est trouvée. On ne parle plus de fête de l'indépendance, mais de fête nationale. Et chaque 11 décembre, les Burkinabés célèbrent à grand renfort de défilé et la proclamation de la République et celle de l'indépendance, même si crise sécuritaire oblige, le faste de la fête officielle a quelque peu baissé.
Radio Omega, l'actualité internationale. Un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire a été saisi ce vendredi à l'aéroport de Brazzaville au Congo par un huissier agissant pour le compte de l'homme d'affaires malien Oumar Diarra. La saisie s'est faite dans le cadre d'un contentieux qui oppose le richissime malien à l'État de Côte d'Ivoire qui lui est redevable de plusieurs milliards de francs CFA. Une première tentative de saisie avait été opérée à Bamako il y a quelques semaines, mais sans succès. À Air Côte d'Ivoire, on parle d'acharnement dans une affaire qui ne concerne nullement la compagnie aérienne. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne soirée à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.